Oui, je disais donc que ce soir, nous allons évoquer la figure d'Épicure et de l'épicurisme. Et à travers Épicure, nous allons rencontrer un aspect des morales ascétiques. Avec Aristote, nous avions une morale du bon sens, une morale du magnanime, du citoyen, homme d'honneur, qui assume ses responsabilités dans la cité et y trouve sa grandeur, sa dignité. Ce que l'on peut appeler, ce que j'appelle les philosophies ascétiques, au sens où l'ascèse signifie, vous le savez, exercice, c'est toutes ces philosophies qui prennent rigoureusement, de la manière la plus radicale, les exigences de la sagesse. Je rappelle ce que c'est que les exigences de la sagesse, ça c'était notre première rencontre. Le sage, c'est celui qui sait et vit en fonction de ce qu'il sait. Et donc les sagesses, c'est des disciplines, des ascèses, qui exigent du sujet un exercice d'attention parfaite. Exercice d'attention parfaite qui doit le concentrer sur le réel tel qu'il est dans son ordre, afin que justement il s'ajuste à ce réel, qu'il se mette à la bonne place, au lieu de toujours vouloir déranger l'ordre du monde par ses désirs et ses prétentions. Et c'est pour ça que cet exercice est un exercice de purification, évidemment, de l'attention, de vigilance extrême, tendue, et qui comporte un aspect ascétique dans la mesure où, au sens familier du mot, dans la mesure où il débouche sur la maîtrise des passions, sur la maîtrise du désir, qui est notre grand problème, puisque c'est le désir qui fait que nous ne trouvons pas notre place. Étant un être de désir, nous sommes condamnés à être perpétuellement dans l'inquiétude, l'inquiesse. L'inquiesse, c'est celui qui se tourne tout le temps dans son lit et n'arrive pas à trouver de place. Et un être de désir est un être qui nécessairement est en constant déséquilibre. Les philosophies ascétiques ont toutes en commun de chercher la tranquillité. C'est le titre d'un opuscule de Sénèque, La tranquillité de l'âme. Chercher une sorte de paix, d'apaisement, qui coïncidera avec l'absence de troubles, ataraxie, l'absence de souffrance, aponie, et toutes les morales ascétiques conspirent vers le même but par des chemins différents, qui sont donc, à travers une discipline rigoureuse, parvenir à la paix. Alors si ce soir j'ai choisi de parler de l'épicurisme, j'aurais pu parler, ils sont contemporains, de différentes tentatives de morale ascétique qui ont fleuri à la même époque, on verra pourquoi peut-être, qui sont le stoïcisme, qui sont le cynisme, qui sont le scepticisme avec la grande figure de Pyrrhon, et les épicuriens, c'est les quatre grandes figures de morale ascétique. Voyez. On peut dire que toutes comportent une privation au sens d'une ascèse et toutes comportent un effort de pacification des passions issu de cette privation. Mais si je me suis intéressé, si j'ai souhaité ce soir vous parler d'Épicure, c'est parce que certainement avec Épicure, nous nous trouvons dans la morale ascétique la plus proche de nous. Cette philosophie assez bizarre, vous allez voir, que je vais peut-être parvenir à vous faire découvrir, est en fait très proche de nous. Et elle est très proche de nous dans la mesure où, comme toutes les philosophies ascétiques, c'est une philosophie pourtant de crise. Les philosophies que j'ai énumérées, stoïcisme, cynisme, scepticisme, sont nés donc dans l'horizon de la période hellénistique, c'est-à-dire de l'effondrement de la belle cité grecque, l'effondrement de l'harmonie de la cité grecque. Et quand on lit Épicure, et j'essayerai de vous rendre sensible à ça, y compris à travers la lecture qu'en fait son grand promoteur qui est Lucrèce, quand on lit Épicure, il faut penser à l'horizon, à un horizon d'incendie, de massacre. C'est l'époque où, d'assassinat en assassinat, de révolte en révolution, les cités ne cessent de s'effondrer sous la violence des héritiers d'Alexandre, qui se déchirent l'héritage. Et donc, on comprend très bien comment cette volonté d'une discipline, d'une ascèse, peut surgir donc dans ces temps de crise. Je souligne avec le moins de lourdeur possible que, oui, par exemple, même la tentation qu'ont nos contemporains par rapport au bouddhisme et ses dérivés, enfin les dérivés du bouddhisme, parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est que le bouddhisme, mais nous en avons les dérivés, y compris dans les parfumeries, c'est justement cette volonté de sagesse, vous voyez, de sauver quelque chose en temps de crise, d'arriver à la tranquillité en temps de crise. Bien. Alors c'est pourquoi, donc, pour bien situer, il faut faire mourir Épicure en 270, il faut le faire naître en 341. On est donc à la fin du IVe siècle, au début du IIIe. Cette doctrine ascétique d'Épicure, comme toutes les sagesses contemporaines de lui, comporte, comme nous l'avons d'ailleurs vu dans notre rencontre d'introduction, une cosmologie, une certaine vision de l'ordre du monde, enfin on va voir assez curieuse chez Épicure, une anthropologie dont je dirai quelques mots, car chez Épicure c'est aussi assez sommaire au fond, et puis donc une éthique au sens d'une conduite de vie. On retrouve bien les aspects fondamentaux qu'on a énumérés dans la première rencontre de ce que doit être une morale, c'est-à-dire comment agir moralement dans un monde apparemment indifférent à nos soucis, et comment agir moralement alors même que nous sommes porteurs de contradictions. Ça, c'était le programme de la première rencontre, pour ceux qui n'y étaient pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que toute morale est liée d'une manière ou d'une autre à une métaphysique, une cosmologie, c'est-à-dire comment agir moralement dans un monde qui n'a aucune intention morale, qui a l'air de se foutre complètement de nos intentions morales, et comment agir à l'égard de soi alors même que le dernier à obéir à mes ordres, c'est moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais. Et donc, il faut bien qu'une anthropologie puisse rendre compte de cette incapacité où nous serions d'ajuster notre conduite sur ce que nous savons. C'est notre cas. Enfin, c'est en tout cas le mien, et je me confesse pour vous accuser, comme le juge pénitent de Camus. Cette doctrine ascétique d'Épicure aura donc pour premier soin de détecter, de diagnostiquer ce qui est à l'origine de notre malheur. Qu'est-ce qui fait notre tourment? Qu'est-ce qui fait notre inquiétude? Et très clairement, toutes les sagesses vont dans la même direction, mais Épicure est à ce point de vue plus radical. Ce qui fait notre inquiétude, c'est le désir, je le disais. Et aux yeux d'Épicure, c'est le désir d'infini. Désir d'infini, par exemple, sous la forme du désir d'immortalité. Désir d'infini sous la forme de la quête perpétuelle d'un au-delà ou d'une prolongation même, par exemple, de nos jouissances, alors que toute jouissance qui se prolonge devient douleur. Et c'est ce désir d'infini, ce désir d'immortalité, qui nous condamne à l'oscillation permanente de l'espoir et de la crainte. Et c'est ce désir d'infini qui inscrit en nous les terreur archaïque de la religion. Et donc la morale, la sagesse, va tourner le dos à la religion dans la mesure où celle-ci comporte encore une inquiétude, un désir. Celui qui fait une offrande, celui qui va consulter l'oracle, c'est qu'il est inquiet. Et si je parvenais à éradiquer toute inquiétude en moi, je serais dispensé d'aller consulter les oracles, de faire des offrandes ou d'exprimer un quelconque repentir. Mais inversement, d'ailleurs, si je cessais de supplier, d'attendre, d'espérer, de désirer, de prier, j'apprendrais, et c'est bien le sens d'une ascèse, à me discipliner moi-même, au lieu de faire appel à un secours providentiel, mais coûteux. Et donc c'est la raison pour laquelle, sans être athée, Épicure va insister sur le fait qu'il ne faut pas compter sur les dieux, il ne faut rien attendre des dieux. Et Lucrèce nous fait une description superbe, parce que Lucrèce, c'est très très beau, je vous invite à aller lire le De Natura Rerum, des délires, des gens qui se mutilent pour une déesse, des gens qui font des offrandes, de ces créatures qui ont perdu justement tout bon sens. Vous voyez, le contraire du sage, c'est le fou. L'insensé, le folos. Et ce qui caractérise le fou, c'est que justement, il est un être de désir. Dans le recueil de textes que vous avez, c'est ce qui correspond donc à la lettre à Ménécée. C'est la page la plus célèbre d'Épicure. On ne commence pas par ce qu'il y a de plus original, c'est la page scolaire d'Épicure que tout le monde connaît. Accoutume-toi, on reviendra sur ce précepte, accoutume. Alors voyez, je disais philosophie ascétique. Une des marques de la philosophie ascétique, c'est qu'elle s'exprime à l'impératif. J'ai insisté sur le fait que la morale d'Aristote était une morale à l'indicatif. Qu'est-ce que l'homme de bien? Qu'est-ce que le magnanime? Qu'est-ce que le prudent? Donc, j'ai insisté la dernière fois sur le fait qu'Aristote procède à des portraits, des descriptions. Les philosophies ascétiques, elles sont impératives. Et donc, c'est dans ces philosophies, vous connaissez tous les maximes de Marc Aurèle, les entretiens d'Épictète, ce sont des maximes, des conseils pour la direction de l'âme. Oui. Accoutume-toi à. Donc, on a tout de suite la marque d'une philosophie ascétique. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien. Donc, je vous le lis. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Lorsqu'il dit « tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation », Épicure donne à la fois, immédiatement, au fond, on pourrait résumer toute la philosophie d'Épicure dans cette seule phrase, puisque cette phrase renvoie à une physique, nous sommes en présence d'un auteur matérialiste. Tout bien et tout mal sont dans la sensation. Donc la philosophie d'Épicure est un matérialisme radical, un peu naïf, mais radical, et dont on va voir qu'il est très près, d'ailleurs, de beaucoup d'intuitions qui nous sont familières. En disant que tout bien et tout mal sont dans la sensation, il donne aussi une approche anthropologique qui est rigoureusement, alors ça, il y a des discussions là-dessus, mais nous ne serons pas assez savants pour les faire, qui est rigoureusement empiriste. C'est-à-dire que toutes nos connaissances, et la seule chose assurée, c'est les sensations. Je vous demande de bien retenir les raisons pour lesquelles, aux yeux d'Épicure, la sensation est un critère de vérité. C'est pour une raison absolument simple, et c'est qu'une sensation ne peut pas être contredite. Et qu'une sensation ne peut pas être contredite par une autre sensation. T'as chaud ? Moi j'ai froid. Et là-dessus, on ne pourra pas discuter. Et donc, on est bien dans un critère de vérité absolu qui abolit tout dialogue, toute critique, toute dialectique, tout soupèsement du pour et du contre. Une sensation est un absolu, elle est en elle-même dans sa ponctualité. Et c'est la raison pour laquelle toute l'ascèse va constituer à, justement, se restreindre à cette ponctualité de la sensation. Au lieu de laisser l'esprit bader dans un indéfini, au-delà des limites que nous procure l'enceinte extrêmement restreinte de la sensation. Et donc, quand je vous donne la fin, comme ça vous pourrez partir, quand Épicure donc développe l'idée du plaisir, c'est justement au sens où le plaisir serait la sensation la plus coïncidente avec elle-même, celle qui est à satiété, celle dans laquelle il n'y a aucun écart entre le senti et le désiré. Et s'il n'y avait aucun écart entre le senti et le désiré, je serais dans la position d'une parfaite immédiateté, d'une parfaite coïncidence et avec moi-même et avec mon objet. Et c'est l'indice que nous donne le plaisir. en disant donc tout bien et tout mal sont dans la sensation. D'une part, il nous ouvre à la perspective d'une philosophie matérialiste. D'autre part, il nous montre une philosophie de la connaissance qui est empiriste. Et puis d'autre part, il nous montre une morale, puisqu'il ne s'agit pas du vrai et du faux, mais il s'agit du bien et du mal. Et une morale qui est une morale de la sensibilité, où donc l'indice du bien et du mal sera dans la vie sensible et dans la connaissance exacte de cette vie sensible. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation, donc les gens qui ont peur de la mort sont absurdes. Par suite, la surconnaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance, non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. Je relis cette phrase qui est une phrase clé, qui est par exemple dirigée directement contre Platon, les platoniciens. La surconnaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance. Jouir de la vie parce qu'elle est mortelle. C'est-à-dire parce qu'elle est limitée. Mais au contraire, en la débarrassant du regret de ne pas être immortel, en la débarrassant, donc rendre la vie heureuse, non pas en lui ajoutant un temps illimité, comme le faisait Platon, mais rendre la vie heureuse en l'enserrant dans sa juste limite. Et cette juste limite nous est indiquée par la sensation, puisque la mort est privation de sensation. Les gens qui craignent la mort sont absurdes, car quand je suis en vie, je ne suis pas encore mort. Quand je suis mort, je ne sens plus rien. Donc quand je suis mort, il n'y a plus ni plaisir ni peine. Et donc la mort n'est rien pour nous. Le rendez-vous avec la mort est en quelque sorte toujours manqué. Et on voit bien là-dedans, dans ce texte que je n'ai pas mis, qu'il s'agit de lutter donc contre la volonté de l'illimité. Je commencerai donc rapidement par quelques caractéristiques de la cosmologie épicurienne. Vous allez pratiquement reconnaître des idées qui nous sont extrêmement familières. Premier point fondamental, l'univers est infini. Si l'univers est infini, ça veut dire donc qu'il n'a pas de limite, bon, bien sûr. Et ça veut dire qu'il ne peut pas être ordonné. Ce n'est pas un cosmos. L'idée du cosmos suppose un ordre, donc une limite. Quand même, cette limite se répéterait-elle indéfiniment comme dans un dessin de Vasarely. Ça suppose donc que... c'est le principe d'Aristote. Le tout est ordonné. C'est-à-dire une chose ne forme un tout que si elle est ordonnée. Donc lorsque les épicuriens affirment le monde est infini, ça veut dire qu'il ne formera jamais un tout, il n'y aura jamais une somme, il n'y aura jamais aucune limite. Et donc un monde infini est nécessairement un monde désordonné. J'attire votre attention sur le fait que vous avez bien compris, j'espère, que la philosophie d'Épicure est une philosophie de la finitude, puisqu'Épicure nous dit « resserre-toi bien dans l'enceinte d'une limite », mais une philosophie de la finitude s'exerce sous un ciel infini. C'est justement pour échapper au vertige d'un ciel infini, pour échapper à l'inquiétude d'un ciel infini, qu'il faut parvenir à s'enfermer dans l'enceinte la plus précise. Ça, c'est quelque chose qui est absolument régulier que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que une philosophie de la finitude suppose un univers infini, c'est-à-dire qu'un univers physiquement ouvert est métaphysiquement clos. Un univers physiquement ouvert est métaphysiquement clos, ça veut dire qu'il n'a pas d'au-delà. Un univers infini n'a pas d'au-delà. Il est donc métaphysiquement clos. Bien qu'il soit infini. Et que, étant infini, il est désordre, il va donc falloir sauver des provinces d'ordre dans un monde désordonné. Waouh. Allons-y. Cet univers est infini, et vous le savez, pour Épicure, c'est la chose que tout le monde connaît d'Épicure, il n'est composé que de corps et de vide. La preuve qu'il y a des corps, c'est la sensation. Oui, facile. La preuve qu'il y a du vide, c'est la sensation, puisque les corps bougent. Donc la preuve qu'il y a des corps, c'est la sensation. La preuve qu'il y a du vide, c'est que les corps bougent. Ces corps sont de deux sortes. Il y a des corps premiers, ce que l'on appelle les atomes. Et donc la philosophie d'Épicure est un atomisme matérialiste. C'est-à-dire, tout est composé d'atomes matériels. Les dieux sont composés d'atomes matériels. La pensée est composée d'atomes matériels. L'amitié est un échange d'atomes. Il n'y a rien qui ne soit atome. C'est un matérialisme radical et naïf. Enfin, naïf, bon, c'est un matérialisme radical. Tout est matière, c'est-à-dire tout est composé d'atomes. Alors, il y a des atomes plus ou moins lisses, des atomes plus ou moins souples. Alors, l'âme est composée d'atomes plus souples que le sabot du cheval, mais tout est composé d'atomes ou de vide. Ces atomes, dans un univers infini, filent en ligne droite à une vitesse infinie. Il fuit d'une fuite infinie. Et dans quelle direction ? Dans aucune direction, puisque ce monde est infini. Si ce n'est qu'ils vont en ligne droite, puisqu'ils n'ont aucune raison d'aller ni à droite ni à gauche dans ce monde infini. Non seulement ils vont en ligne droite, mais, grande intuition de Lucrèce, ils vont tous à la même vitesse, puisqu'ils sont dans le vide. Et donc dans le vide, tous les atomes se meuvent en ligne droite, verticalement, dit un peu bizarrement Lucrèce, et d'une vitesse extrêmement rapide, d'une vitesse invisible en quelque sorte, et en ligne droite. Alors vous me direz, et c'est ce que nous dit Épicure, mais alors si tous les atomes filent d'une vitesse infinie en ligne droite, comment des corps se constituent-ils ? Ben, il faut bien qu'ils s'entrechoquent. Alors voilà-t-il pas que les atomes qui filent en ligne droite s'entrechoquent. Les corps sont donc mus par deux causes, et seulement deux, les chocs et le hasard. Il faut qu'il y ait du hasard. Dans un monde infini, où tout court au désordre, il faut qu'il y ait du hasard pour que de temps à autre se constitue un corps. Par exemple, celui-ci, qui est tout à fait provisoire. Puisque dans ce monde infini où tous les atomes filent à toute vitesse, l'existence d'un corps est très provisoire. C'est un agrégat. On ne parlera pas d'un ordre, on parlera d'un agrégat. Et assez curieusement, les épicuriens, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une philosophie contemporaine, quand vous lisez Lucrèce, je ne sais pas les autres auteurs, mais Lucrèce, quand il parle de l'agrégat, ce qui fait que des atomes s'entrechoquent et s'entrechoquant finissent par constituer un corps, le vôtre, le mien, ce meuble, etc., il appelle ça phoedus. Vous vous rendez compte ? Contrat. C'est-à-dire, c'est vraiment les atomes. Atome, ça veut dire individu. Hein. Atome, ça veut dire indivisible. Indivisible, individu, c'est pareil. Atome, c'est pareil. Donc les atomes qui filent d'une vitesse infinie, de temps en temps, s'agrègent par contrat. Mais ce contrat est un heurt de hasard, qui fait que pendant quelques 70 ans, cet agrégat subsiste. Mais comme tout agrégat, il est promis à la destruction. Même les dieux sont des agrégats. Alors, les dieux sont immortels parce que c'est des agrégats particuliers. C'est des mortels immortels, les dieux. C'est-à-dire que normalement, les dieux sont mortels puisqu'ils sont des agrégats. Alors, on va dire ils sont sempiternels. C'est-à-dire, ils durent, mais il n'y a pas de raison pour qu'ils durent. Si ce n'est que leurs atomes sont particulièrement subtils. Mais tout se défera. J'y vais insister. Puis je vais insister tout au cours de la soirée avec une certaine lourdeur là-dessus. Et donc ces agrégats qui se forment dans un monde de hasard et de choc, donc ils sont provisoires. Il y a des infinités d'agrégats. On ne connaît pas, il y a des infinités de mondes. Ces agrégats, ils sont voués à se disséminer, ils sont voués à se disperser. C'est-à-dire que tout est voué à la dissolution. C'est pour ça que j'ai dit, il faut penser ces philosophies sous un fond d'incendie, de carnage. Dans un monde où tout est voué à la dissolution, où l'ordre est rare. Vous pensez, là, pendant que nous sommes en train de parler, aux millions, aux millions, aux milliards d'atomes qui sont en train de circuler dans cette pièce. Alors, il y a des petits objets que l'on voit assez stables, mais au fond, l'ordre est rare. Parce que les millions d'atomes qui voltigent dans cette pièce ont très peu de chances de former un agrégat. En voici un. Mais cet agrégat, on sait qu'un jour ou l'autre, il va se disséminer et redevenir poussière. Et donc, le monde comporte une infinité. Enfin, l'univers. Donc, ce n'est pas un cosmos, il comporte une infinité de mondes différents d'une autre, qui dépassent complètement notre imagination et qui d'ailleurs nous sont au fond indifférents. Étrange cosmologie, qui tourne le dos à l'image classique de la cosmologie grecque, où l'on se dit d'habitude, voilà, il y a un monde ordonné, contemple le monde ordonné, ajuste-toi à ce monde ordonné, etc. Épicure, à la différence d'un Aristote, à la différence d'un Platon, à la différence des stoïciens, n'a aucune prétention scientifique dans cette cosmologie. Au fond, il s'en fout. Puisqu'il dit, mais vous savez, toutes les explications sont possibles. Et évidemment, puisque le hasard règne. Vous fournissez une autre explication ? Mais allez-y. On ne va pas se disputer sur une question de physique, puisque tout est possible. Puisqu'une infinité de mondes sont possibles. Et c'est pour ça que, par exemple, Épicure se moquait des philosophes qui font des mathématiques. Et puis alors encore plus de ceux qui prétendent appliquer les mathématiques à l'ordre du monde. Parce que d'ordre du monde, il n'y en a pas. Et donc les mathématiques, c'est une distraction pour des gens qui n'ont pas compris l'essentiel de la vie. Autrement dit, l'usage de la science, que de la cosmologie, donc de la science, que donne Épicure, ne prétend pas à la connaissance, mais à la paix de l'âme. L'objectif n'est pas d'ajuster notre conduite sur la connaissance des choses telles qu'elles sont, mais l'objectif est de nous convaincre qu'il n'y a rien de redoutable dans ce monde, qu'il n'y a rien à espérer, donc rien à en craindre. Donc cette science n'indique aucun ordre, elle est faite de hasard, de pluralité des explications, elle a simplement pour but donc, de calmer nos angoisses. Ce monde, donc fait d'atomes insécables, solides, compacts, emportés d'une vitesse très grande et continue, en ligne droite, est dans un désordre permanent. Il ne se constitue des corps que par hasard. Alors ce texte, je sais que je vous l'ai proposé, c'est le très beau texte de Lucrèce. Quand les lumières, quand les rayons du soleil se glissent dans l'obscurité d'une chambre, contemple. Vous voyez ? On remarque une philosophie prescriptive, contemple. Contemple, c'est exerce ton attention. Mais exerce ton attention, non pas tellement pour en acquérir une connaissance, mais pour y trouver une ligne de conduite. Exercice d'attention. Pendant un temps, je m'étais amusé à faire du yoga dans un truc un peu mystico-gélatineux. Alors, notre maître nous disait, pense à une pomme. Alors, je pensais bien à ce que je voulais. Hein. Concentre-toi. C'était très, très épicurien. Hein. Pense à une pomme, puis concentre-toi bien sur une pomme. Contemple quelque chose. Quand les lumières, quand les rayons du soleil se glissent dans l'obscurité d'une chambre, contemple. Tu verras parmi le vide, maints corps minuscules se mêler de maintes façons dans les rayons de lumière, comme les soldats, quand je vous disais le fond, comme les soldats d'une guerre éternelle se livrer par escadrons, batailles et combats, sans s'accorder de trêve et toujours s'agitant au gré des alliances et séparations multiples. Le tourbillon des atomes, c'est une guerre. Oui. Il est décrit comme une guerre. Et dans cette guerre, il y a de temps en temps des alliances et de temps en temps des dissolutions. Donc c'est l'enfant que nous avons tous été et qui contemple le tourbillon des poussières dans un rayon de soleil. Et qui, nous avons tous pensé ça, enfin moi je l'ai pensé en tout cas, mais je suis sûr que vous l'avez pensé aussi, qui s'est dit, mais au fond, toute la matière doit être faite comme ça, et tout le monde doit être fait comme ça, de tourbillons qui se sont plus ou moins stabilisés, qui sont devenus à un moment un vase, une table, une fenêtre. Et donc l'état naturel de ces atomes, c'est une espèce de guerre. Oui. C'est ainsi que tu peux saisir par conjecture, on voit bien, le fait que pour l'épicurien, il ne s'agit absolument pas d'une science. Une hypothèse commode pour apaiser l'âme. C'est ainsi que tu peux saisir par conjecture l'éternelle agitation des atomes. Alors le mot atome est une traduction inexacte parce que Lucrèce n'utilise jamais atome, primordia. L'éternelle agitation des atomes dans le grand vide, pour autant que de grandes choses, une petite, puisse donner l'exemple et tracer le concept. Il en est ainsi une raison de mieux observer les corps se bousculant parmi les rayons du soleil. De telles turbulences signifient qu'au-dessous, la matière est agitée de mouvements obscurs. Oui, tu verras souvent ces corps changer de route et retourner en arrière sous d'aveugles chocs, tantôt ici, tantôt là, partout, en tous sens. Ce qui fait qu'un atome remplit tout l'espace. Cette errance est due au principe des choses, c'est-à-dire aux atomes, qui sont les premiers à se mouvoir d'eux-mêmes, puis les corps, c'est-à-dire les agrégats, dont l'assemblage est le plus petit, les plus proches, pour ainsi dire, de la force des atomes, principiorum, se meuvent sous la poussée des chocs aveugles et frappent à leur tour des corps un peu plus grands. Et ainsi, depuis les atomes, le mouvement s'élève peu à peu, il parvient à nos sens jusqu'à nous faire voir l'agitation des corps dans un rayon de soleil, mais les chocs originels demeurent invisibles. Voilà pour ce qui est de la preuve de la constitution atomistique de la matière et de la réalité matérielle de tous les corps. Lucrèce ajoute une autre preuve, mais typiquement épicurienne, c'est-à-dire liée à l'observation des choses. C'est que, première observation, il y a les particules fines de poussière dans les rayons de soleil. Puis deuxième observation, il y a la porosité de toute chose. Toute chose est poreuse. Je rappellerai ici, c'est le champ 6 vers 935. Je rappellerai ici combien toute chose est poreuse. En effet, s'il est vrai que ce principe explique un grand nombre de faits, affirmons-nous, avant tout pour bien comprendre ce dont je vais traiter, tout corps perçu est un mélange de matière et de vide. D'abord les grottes, les pierres de la voûte. Par exemple, les pierres de la voûte laissent suinter de l'eau. Donc elles sont poreuses. Elles le distillent goutte à goutte. De même, la sueur s'écoule de tout notre corps. La barbe et les poils poussent sur tous nos membres. Dans toutes nos veines s'épand l'aliment qui fait croître jusqu'aux extrémités du corps, jusqu'aux ongles même. Nous sentons le froid et le chaud traverser le bronze. Donc le bronze est poreux. Nous les sentons aussi traverser l'or et l'argent, qui sont donc poreux, lorsque nous tenons dans nos mains des coupes pleines. Enfin, par les cloisons de pierre des maisons, voltigent des voix. La voix est matérielle, bien sûr. Toute sensation est matérielle. La sensation olfactive, la sensation auditive, la sensation gustative sont toutes des chocs, sont tous des touchés. Dans l'épicurisme, tout se rapporte au toucher. Le toucher est le seul sens. Et c'est pour ça que quand il dit contemple, en quelque sorte, il pourrait dire touche. Applique-toi à toucher. La preuve, donc, dit-il, par les cloisons de pierre des maisons, voltigent des voix, passent des odeurs, le froid, la chaleur du feu, lequel pénètre, la force du fer lui-même, puis la cuirasse, enfin, dont le ciel en sert. Et là, il nous manque un vers que donc je ne vous lirai pas. Donc l'âme elle-même est matérielle et donc elle-même est vouée à la dispersion. Cela va donc donner lieu à une certaine sagesse, guidée donc par l'exercice d'attention et par la nécessité, vous voyez, de cette métaphore qui revient sans cesse chez Lucrèce, de trouver une enceinte dans un monde désordonné. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est la philosophie du jardin. Vous avez souvent entendu le stoïcisme désigné comme la philosophie du jardin. C'est la philosophie du jardin, c'est parce que le jardin était le lieu où le stoïcisme, l'épicurisme. Le jardin était le lieu où Épicure rassemblait ses disciples et où ils philosophaient et devisaient ensemble. Mais cette idée du jardin est plus qu'une anecdote historique, c'est vraiment l'idée de trouver... l'idée du jardin, c'est le lieu clos, le jardin. Nous avons tous un jardin de notre enfance, dans notre esprit. C'est le lieu clos par excellence, préservé donc des ordres de la guerre. J'ai commencé en rappelant que nous sommes dans la période hellénistique, c'est-à-dire sous un horizon de carnage. Je ne développerai pas le stoïcisme, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le stoïcisme, face à la dissolution de la cité, a pensé la cosmopolis. C'est-à-dire la cité se dissolvant, les stoïciens ont pensé notre véritable cité, c'est la nature. Et donc même si nous sommes romains, athéniens, notre vraie cité, c'est la nature, parce que cette nature est ordonnée, elle est la cosmopolis. Et donc les stoïciens ont résolu le problème de la décadence de la cité par en étendant en quelque sorte le modèle de la cité à l'univers. Appartient à la cité mondiale plutôt qu'à Athènes. Pour ainsi dire, les épicuriens ont fait le choix exactement inverse, non pas d'étendre la cité au le plus loin possible, mais au contraire de la restreindre le plus possible. Jusqu'à être, au fond, cette petite cité d'un instant que serait une sensation parfaite. Le seul moment de coïncidence auquel on pourrait aspirer. Voilà pourquoi la philosophie d'Épicure est présentée comme une philosophie du plaisir. Je suppose que vous savez que cette philosophie d'Épicure n'a rien d'épicurien. Donc c'est une philosophie ascétique, le plaisir étant justement la détermination d'une règle d'autosuffisance, ce n'est pas du tout une volupté abandonnée. Au contraire, c'est une vigilance hautaine. Puisque tout bien et tout mal se règle sur la sensation, ça veut dire que le plaisir est la règle, le canon. Il est la règle à laquelle tout se rapporte. À vrai dire, le plaisir doit être soigneusement défini et le plaisir tel que le définit Épicure, c'est le plaisir calme, c'est-à-dire celui qu'il appelle calme, tranquille, c'est celui qui est la suppression d'un manque. Nous avons deux conceptions du plaisir. Où le plaisir est la conquête d'un bien, ou le plaisir est la suppression d'un manque. Si le plaisir est la suppression d'un manque, l'état parfait du plaisir, c'est l'indifférence, la tranquillité. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, mon petit ventre est bien tendu. Et merci personne, puisque les dieux sont complètement indifférents, évidemment, à notre destinée. C'est pourquoi Épicure n'hésite pas à dire « Qui a le ventre rempli n'a rien d'autre à exiger. » Car s'il exigeait autre chose, il sortirait de la limite. Vous voyez ? Il voudrait de l'illimité. Mon ventre donne la mesure, il est limité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « La mesure du plaisir ». Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant « Tous nos maux viennent du désir d'illimité ». Et donc si l'objectif c'est celui de la suppression du manque, les besoins les plus simples, les plus fondamentaux, sont ceux qui permettront l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Donc retenez le mot ataraxie qui est le mot classique, hein. L'aponie qui est l'absence de douleur. Et donc c'est ainsi que l'on peut trouver la règle. C'est une philosophie entièrement matérialiste, entièrement empiriste, donc la règle est bien dans la sensation. Analyse tes sensations, il faut que tu saches quand tu n'as plus faim. L'insensé, c'est celui qui ne sait pas quand il n'a plus faim. L'insensé, c'est celui qui voudrait une faim infinie. Les grands spirituels nous parlent d'une soif infinie. Oh, bo, 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 bo. La soif n'est pas du tout infinie, elle est finie. Une fois que ton estomac est rempli, qu'est-ce que tu peux exiger de plus ? Tu es un insensé si tu exiges plus. C'est la raison pour laquelle Épicure distingue dans les besoins, vous le savez, les besoins nécessaires et naturels, qui exigent la satisfaction la plus simple et la plus prompte, boire quand on a soif. Boire sans soif, c'est être un imbécile. Donc les plaisirs nécessaires et naturels, les plaisirs naturels et non nécessaires, par exemple, les plaisirs du goût, le plaisir du sexe. Si les plaisirs du sexe sont nécessaires, il faut les satisfaire rapidement. Dans l'ordre, il vaut mieux la masturbation que le lien sexuel, il vaut mieux la prostitution que la passion, il vaut mieux... voilà. C'est un besoin, satisfait-le, puis qu'on n'en parle plus. Mais enfin, c'est un besoin naturelle mais pas nécessaire. Si tu es vigilant, tu sauras t'en passer. Et puis enfin, il y a les besoins non naturels, non nécessaires, qui sont les liqueurs, les draps de soie, les honneurs, les flambeaux la nuit, les festins, etc. C'est le texte que vous avez, alors là, de la lettre à Ménécée. En effet, une étude rigoureuse des désirs permet de rapporter... Oui, étude. C'est magnifique. En effet, une étude rigoureuse des désirs permet de rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles dans l'âme, puisque c'est cela, la fin, dans les deux sens du mot, de la vie bienheureuse. C'est en effet en vue de cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de ne pas éprouver de crainte. Mais une fois que cet état s'est réalisé en nous, toute la tempête de l'âme, vous voyez les métaphores ? Une fois que cet état s'est réalisé en nous, toute la tempête de l'âme se dissipe, le vivant n'ayant pas besoin de se mettre en marche. Donc on a enfin un moment d'immobilité dans ce monde où les atomes courent à une vitesse insensée. Le vivant n'ayant pas besoin de se mettre en marche vers quelque chose qui lui manquerait, ni à rechercher quelque autre chose grâce à laquelle le bien de l'âme et du corps trouverait conjointement sa plénitude. C'est en effet quand nous souffrons de l'absence du plaisir que nous avons besoin du plaisir. Mais quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir. Voilà pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Principe et la fin, ça veut dire que c'est l'alpha et l'oméga, il englobe tout. Nous savons en effet qu'il est un bien premier et apparenté, et c'est en partant de lui... Et c'est en partant de lui que nous commençons, en toutes circonstances, à choisir et à refuser. C'est à lui que nous aboutissons, parce que nous discernons tout bien en nous servant de l'affection comme d'une règle. Éthique, règle du bien agir. Tu cherches une règle, écoute ton plaisir. Mais pourvu que ton plaisir soit précisément dans des conditions où il peut être réglé, c'est-à-dire s'il correspond à un besoin nécessaire et naturel. Autrement dit, le plaisir est un épisode d'autosuffisance. L'idéal de l'ataraxie étant celui de l'autosuffisance, cette autosuffisance que les sagesses mystiques vont chercher dans une plénitude, l'épicurisme dit, nous en avons un canon de l'autosuffisance, c'est le plaisir qui a l'estomac rempli, n'a rien d'autre à demander. Alors évidemment, cet épisode d'autosuffisance, il est clair qu'il est voué, comme toute chose, à la dispersion. Il est voué, comme toute chose, à repartir dans le désordre. D'où l'importance, c'est d'ailleurs un point commun à pratiquement toutes les philosophies de l'Antiquité, d'où l'extrême importance de la mémoire. Les disciples d'Épicure devaient apprendre par cœur la doctrine d'Épicure. Et ils devaient réciter la doctrine d'Épicure, comme le catéchisme. Et il paraît, ça c'est encore dans le genre des ultima verba, que les derniers mots d'Épicure furent « Souvenez-vous de ma doctrine ». Et on a, dans un pays qui s'appelle Enanda, qui doit être en Turquie maintenant, on a retrouvé en 1884 la villa d'un homme qui s'appelait Diogène d'Enanda, donc, qui avait fait graver sur l'enceinte, on retrouve toujours cette même métaphore, qui avait fait graver sur l'enceinte de sa maison toute la doctrine d'Épicure. Afin que, justement, la doctrine soit l'enceinte elle-même, vous voyez. Celle qui maintient la contention d'esprit et la contention du désir, dans le même temps, le jardin parfait. Séjourne. Le mot d'ordre d'Épicure, vous le connaissez, c'est la tebiosas, cache ta vie. Dans un monde voué au désordre, dans un monde voué à la pagaille, cache ta vie, donc le jardin. Et la doctrine, la mémoire, est une certaine façon de retenir les atomes qui foutent le camp. Donc les atomes fuient à toute vitesse, l'exercice de la mémoire, l'anamnèse, est une reconstitution de soi. Cette doctrine existait déjà chez Pythagore, qui recommandait à ses disciples tous les soirs de reparcourir leur journée. Faites cet exercice. En plus, faites votre examen de conscience par la même occasion. Et donc, Pythagore recommandait à ses disciples tous les soirs de reparcourir leur journée afin que les choses ne foutent pas le camp. Et on va retrouver ça dans l'anamnèse platonicienne, hein, la volonté de retenir ce qui part, de l'enfermer donc dans une doctrine, dans un catéchisme. Cette doctrine se résume en quatre principes fondamentaux qu'on appelle le tétrapharmacon, c'est-à-dire le quadruple remède. Ces quatre principes fondamentaux sont, premièrement, il ne faut pas redouter les dieux. Bon, on a vu pourquoi. Ils sont indifférents, ils sont matériels, en rien à se préoccuper des hommes, donc il n'y a en rien à les supplier. Deuxièmement, le plaisir est facile à atteindre. Si, justement, je lui donne sa mesure qui est d'être les choses simples. Premièrement, donc, il ne faut pas redouter les dieux. Deuxièmement, le plaisir est facile à atteindre. Troisièmement, la mort n'est pas à craindre, on l'a vu, puisque la règle, c'est la sensation. Et enfin, c'est le quatrième élément du tétrapharmacon qui est au fond le plus essentiel. C'est là que le tétrapharmacon va servir. C'est toute souffrance est facile à achever. Toute souffrance est finie. Parce qu'évidemment, on peut opposer à l'épicurisme. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de souffrance? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai la jambe cassée, quand j'ai mal aux dents, etc. Eh bien, bande ta mémoire, contiens ton esprit. Et en présence de la souffrance, c'est justement cet exercice de mémorisation qui va permettre de mettre un terme. Le véritable analgésique, c'est la mémoire. Et Épicure invitait, quand on souffre, à se rappeler, puisque tout est matière, hein, puisque tout est matière, quand vous vous rappelez les événements heureux reviennent. Puisqu'un souvenir, c'est une matière. Il faut bien vous mettre ça dans l'esprit. Donc, je peux, par une sorte d'exercice, là, pour le coup, hein, comprendre que, quand j'ai mal aux dents, d'abord, je me dis, ben, toute souffrance a une fin. C'est ce qu'on se dit quand on écoute un cours de philo. On se dit, toute chose a une fin. C'est Kierkegaard qui dit, quand on entend les sermons du pasteur, les fidèles pensent, heureusement, tout a une fin. Et ainsi, cette pensée désespérée devient pleine d'espérance, commente Kierkegaard. Parce que la pensée que tout a une fin est à certains côtés assez désespérée. Mais donc, elle peut être pleine d'espérance si j'ai mal aux dents. Et si je peux justement ceindre cette douleur dans cette mémoire. Rappelle-toi bien que toute douleur a une fin. C'est pourquoi la page qui reste la plus illustrative, qui a été retenue le plus fréquemment comme l'expression parfaite de la philosophie épicurienne, c'est le début du deuxième chant du De Natura Rerum de Lucrèce que vous avez dans votre recueil, auquel j'ai donné un peu par cuistrerie le titre qu'on lui donne d'habitude chez les gens savants, soit oui, Marie Magno, puisque c'est la première page, la première ligne, le premier vers de ce très beau passage. Douceur. Alors, vous allez normalement, si vous avez suivi, vous allez reconnaître à peu près tout ce que j'ai dit. Douceur, lorsque les vents soulèvent la mer immense, d'observer. On pourrait pratiquement s'arrêter, mais on continue. D'observer du rivage. Le dur effort d'autrui. Les insensés. Regardez les insensés. Non que le tourment soit jamais un doux plaisir, mais il nous plaît de voir à quoi nous échappons. Lors de grands combats de la guerre, et c'est reparti, la métaphore guerrière qui a servi pour les tourbillons, qui a servi pour les passions, qui a servi, etc., on la retrouve tout le temps. Lors des grands combats de la guerre, il plaît aussi de regarder sans risque les armées dans les plaines. Mais rien n'est plus doux que d'habiter les hauts lieux, fortifiés solidement, c'est l'image de l'enceinte, par le savoir des sages. Fortifiés par le savoir des sages. Le savoir est une forteresse. Temple de sérénité. Temple à usage non pas pour l'adoration des dieux. Temple de sérénité, d'où l'on peut voir les autres errer sans trêve en bas, comme les atomes, cherchant le chemin de la vie, rivalisant de talent, de gloire nobiliaire, s'efforçant nuit et jour par un labeur intense d'atteindre à l'opulence, au fait du pouvoir, pitoyables esprits, cœurs aveugles des hommes, dans quelles ténèbres mortelles, quels dangers passent leur peu de vie. Leur peu de vie, dans cette vie éphémère, je fais durer cette vie éphémère en gardant le plus possible mes atomes. Ne voit-il pas l'évidence ? Il faut regarder. La nature, en criant, ne réclame rien d'autre, sinon que la douleur soit éloignée du corps, que l'esprit jouisse de sensations heureuses, l'esprit est matériel. Hein. Donc les atomes sont insensibles, les corps sont sensibles, parce qu'ils sont composés. Et l'esprit est sensible parce qu'il est matériel, et donc le plaisir est plaisir de l'esprit pour Lucrèce. Enfin, ou du corps. Ça revient au même, puisque l'esprit est corporel. La nature, en criant, ne réclame rien d'autre, sinon que la douleur soit éloignée du corps, que l'esprit jouisse de sensations heureuses, délivrées des soucis et de craintes affranchies. Ainsi, nous le voyons, bien peu de choses sont nécessaires à la nature corporelle, et tout ce qui ôte la douleur peut aussi nous donner maintes délices en échange. Vous avez ici un résumé absolument parfait de l'attitude épicurienne par rapport au monde, donc décrit comme tempête, comme guerre, le savoir décrit comme forteresse, forteresse mnémique, mémorielle de la mémoire, et donc... dans cette forteresse, la paix trouvée dans la jouissance des choses nécessaires, et non pas dans le luxe auquel courent les insensés. On peut d'ailleurs les contempler avec un certain plaisir, au moins par la sensation que l'on a d'échapper à leur tourment. Mais vous voyez, je disais que cette philosophie me semble quand même très très proche de la nôtre. C'est pour ça que beaucoup de nos contemporains tournent autour, parce qu'il y a bien un horizon assez désespéré au bout du compte. C'est très impressionnant, très intéressant de voir que, j'ai peut-être tort de dire tous, si quelqu'un vérifie, il me contredira peut-être, mais beaucoup, alors on va dire beaucoup, que beaucoup des chants du De Natura Rerum se terminent sur des débâcles, des catastrophes, délicadence. La célèbre, la très célèbre, la très belle, l'extraordinaire description de la peste d'Athènes conclut le De Natura Rerum. Et ça veut bien dire « toutes choses partent en quenouille ». Ça, le texte que je vous ai lu, le « Suave Marie Magno », c'est le début du chant 2. Je vais vous lire, pour terminer, la fin du chant 2. Et vous verrez comment... Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais lire seulement des extraits... Si je vous donne des extraits, c'est pour que vous sachiez que vous ne savez rien. Il faut lire les textes en entier. Car dans le texte en entier, on a le mouvement du texte. Et si vous lisez le chant 2, donc ça commence par le Suave Marie Magno, que tout le monde connaît, enfin, c'est une page scolaire. Mais si on va jusqu'au bout du chant 2, on termine par « Nous épuisons les bœufs, la force des cultivateurs. Nous usons nos outils. Les champs rendent à peine, si avares de leurs fruits et gourmands de notre effort. Oui, sans cesse, hochant la tête, le vieux laboureur se plaint du grand labeur fourni en pure perte. Lorsqu'il compare au temps passé le temps présent, il célèbre souvent le bonheur de son père. Triste aussi, le planteur d'une vigne, vieille et flétrie, incrimine l'instant, accable son époque. L'antique race, maugrait-il, pleine de piété, supportait aisément la vie en d'étroites limites. On retrouve toujours le thème de la limite. Malgré le champ bien moindre assisté à chacun, il ne voit pas que peu à peu, tout se décompose et va droit à la tombe, épuisé de vieillesse. Voilà le contexte d'une philosophie ascétique, il y a quelque chose de sublime. J'ai insisté sur le côté héroïque de cette philosophie pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur l'épicurisme et sur donc l'exercice de mémoire et d'attention que suppose d'arriver à trouver dans le plaisir une règle juste, de s'ajuster au plaisir. Car il est vrai que nos plaisirs outrepassent très vite les limites, tremblent aux frontières et ont de la peine à être contenus dans l'étroitesse d'une limite. Alors que nous savons très bien que nous serions infiniment plus heureux si nous savions nous contenter d'un verre d'eau et d'un fromage de chèvre. Vous me direz, le régime est un peu sobre. Eh oui, mais c'était celui d'Épicure. Un verre d'eau quand tu as soif, un fromage de chèvre quand tu as faim, qu'est-ce que tu veux de plus ? Mais pour parvenir à ça, alors chacun se dit, oui, ça serait bien, je suis d'accord. Seulement, nous ne le faisons pas. Et on retrouve justement cette idée du fait que nous ne faisons pas ce que nous savons. Et pourquoi nous ne le faisons pas ? Parce que pour arriver à le faire, il faudrait suivre toute cette pédagogie. Il faudrait bien regarder les tourbillons dans le rayon de soleil. Il faudrait bien regarder la sueur qui traverse, le bruit qui traverse les murs. Il faudrait bien faire ces exercices, vous voyez, de yoga, ces exercices d'attention pour percevoir la nécessité de ceindre un monde infini dans un plaisir fini. Voilà.